En attendant de retrouver vos habitudes à la rentrée, on vous propose de découvrir cette nouvelle émission dont vous pouvez retrouver tous les épisodes sur franceculture.fr et l'application Radio France. France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbault.
Pluton a perdu son statut de planète. Elle est devenue une planète naine.
Bien sûr que Pluton est une planète. J'ai appris ça à l'école primaire.
Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en trois enjambées.
Ça y est, chaque fois que je me vante de quelque chose, vlan.
En 2006, Evlan, au terme de débats très animés, la petite planète perd son statut de 9e planète du système solaire. Découverte en 1930 par le jeune astronome Clyde Tombaugh, Pluton est la première planète à avoir été identifiée depuis les États-Unis. Dotée d'une orbite excentrique et démesurément longue, Pluton intrigue évidemment les scientifiques, mais elle s'avère moins unique qu'on ne le pensait. Nombreux sont les objets transneptuniens comme elle qui peuplent notre système solaire reculé. Comment cette petite planète a-t-elle été découverte puis reclassée en planète naine? Quelle est la dimension culturelle de cette histoire et son histoire cache-t-elle d'autres révolutions scientifiques? Comment la découverte de Pluton a-t-elle changé le monde? Pour explorer cette histoire mouvementée, j'ai le plaisir de recevoir deux scientifiques du LIRA, le laboratoire d'instrumentation et de recherche en astrophysique de l'Observatoire de Paris. Thomas Wittmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également membre de l'Académie internationale d'astronautique. Et Alain de Ressoudira, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi co-auteur des Confins du système solaire, écrit avec Emmanuel Lelouch, paru aux éditions Belin. On commence notre histoire de la découverte de Pluton avec celle de Neptune et une archive radiophonique de l'INA de 1946.
Souvenir. Dans les ruines de Saint-Lô, dévastées par la guerre et qui fut sa ville natale, c'est devant le buste mutilé de l'astronome Jean Le Verrier que les savants de l'Observatoire de Paris sont venus se recueillir. En 1846, voici un siècle, Le Verrier, par le seul résultat d'une suite de prodigieux calculs, fixait dans l'espace la place d'une planète inconnue. Et les télescopes des savants incrédules, braqués vers le ciel, y découvraient Neptune à 4,5 milliards de kilomètres.
Un recueillement devant le buste d'Urbain Le Verrier, non Jean comme il est dit ici à Saint-Lô, à l'occasion du 100e anniversaire de la découverte de la planète Neptune. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur ce bout, entre guillemets, du système solaire. Dès l'Antiquité, on connaît 5 mondes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, mais il faut un peu plus de temps pour découvrir les deux dernières. Thomas Wittmann, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment a été découverte peut-être Uranus avant Neptune?
Alors, on ne disait pas tout à fait des mondes, car l'idée que ce soit d'autres mondes est venue bien tard. C'était des planètes, comme d'ailleurs la Lune et le Soleil, donc le total dans l'Antiquité était 7. Et avec l'invention du télescope, les astronomes ont commencé à braquer leurs lunettes vers des détections de nouveaux objets, des nébuleuses, des comètes. Et l'une d'entre elles s'est avérée sur une orbite plus lente, mais similaire à celle de Saturne, et ça a été la planète d'Herschel, puisque c'est un astronome anglais qui l'a découverte. Elle s'est appelée de son propre nom pendant quelques années, jusqu'au moment où les Français et les Anglais se sont mis d'accord pour le père de Saturne dans la mythologie qui est Uranus.
Donc c'était une découverte un petit peu au hasard, en cherchant un petit peu, en scrutant le ciel. Et lors de cette caractérisation d'Uranus, il y a plusieurs astronomes qui évoquent un corps troublant, une perturbation de l'orbite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Alain de Ressoudira? Et est-ce qu'on a recherché, du coup, de ce fait, peut-être quelque chose, une autre planète un peu plus loin?
Exactement. Donc effectivement, quand on découvre Uranus, il semblerait que par ses mouvements, il y aurait un corps qui pourrait la perturber. Donc c'est de la mécanique céleste. Et pour la première fois dans l'histoire, on découvre une planète à la pointe de la plume. Et c'est l'astronome de l'Observatoire de Paris, Urbain Le Verrier, par des calculs. En même temps, il y avait John Couch Adam, un Anglais, qui concomitamment, prédisent la position de cette planète qui perturberait Uranus. Et Urbain Le Verrier communique cette position à l'astronome allemand Gall, qui le découvre le 23 septembre 1846.
Oui, il y a eu une petite controverse anglaise sur la primeur justement de la découverte. C'est la première planète découverte par le calcul. Thomas Wittmann, est-ce que c'est pas déjà une petite révolution, une transformation de l'astronomie, de se dire, voilà, on peut par le calcul recul, imaginer et découvrir ainsi une planète.
Tout à fait. C'est à partir des lois de Kepler, mais surtout de la physique de Newton, à la fin du XVIIIe siècle, que va se mettre en place cette nouvelle astronomie basée sur les mathématiques, en quelque sorte. Des progrès considérables ont été faits, en particulier à l'Observatoire de Paris, sur la prédiction de ces corps perturbateurs dans d'autres domaines. Et il est vrai que c'est le début d'une très très grande champ disciplinaire dans notre activité.
Et c'est là qu'on entre vraiment dans le début de l'histoire de la découverte de Pluton, parce que la présence de Neptune n'explique toujours pas ces perturbations potentielles d'Uranus. Et donc, c'est qu'il y a autre chose. Est-ce que c'est là que commence cette recherche de la planète X, Alain Doré-Soudirham?
Oui, alors c'est vrai qu'en regardant la position d'Uranus, il y avait encore quelques petites perturbations, mais alors tout petit. Hein, on parle de quelques arcs secondes, hein, c'est la dimension dans le ciel, alors que pour découvrir Neptune, il y avait des centaines d'arcs secondes. C'était simplement une fois et demie la taille d'Uranus dans le ciel. Donc, c'était pas grand-chose.
Ça veut dire qu'on s'attend, je vous coupe juste sur la notion de perturbation, ça veut dire qu'on s'attend à la voir à un endroit et qu'en fait, par le calcul, on ne la trouve pas et quand on l'observe, elle n'est pas exactement à cet endroit-là.
Exactement. C'est-à-dire que non perturbée, donc par une masse, par les lois de la gravitation, ben la planète doit avoir une certaine orbite. Sauf que, eh bien, on trouvait qu'elle n'avait pas exactement cette orbite et donc on pensait que une autre planète pouvait la perturber. Mais c'était vraiment infime. Et donc, fort de cette constatation, deux astronomes, William Pickering et puis Percival Lowell, se mettent en quête de faire des calculs avec de l'aide, hein, tous les deux, à partir du début du XXe siècle, prédisent une position supposée pour Pickering, c'est la planète O, et pour Percival Lowell, c'est la planète X.
Et Pickering donne aussi plein d'autres noms, plein d'autres lettres, parce qu'il en imagine encore bien plus, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est qu'il met en doute un petit peu ses calculs, parce qu'il va jusqu'à prédire 5 autres planètes.
Et ce qui va permettre de découvrir Pluton, c'est justement cet observatoire construit sous la direction de Percival Lowell qu'on vient de citer.
Oui, on pourrait dire même que Percival Lowell, c'était un petit peu un excentrique. C'est un peu illustré parce qu'il avait inventé des canaux et s'est mis en quête de découvrir des extraterrestres sur Mars avec les fameux canaux martiens. Mais c'était aussi, il était richissime et il avait à l'époque les plus grands moyens d'observation télescopique. Donc, il crée l'observatoire de Lowell.
Ouais, c'est un profil un peu atypique. Thomas Wiedemann, est-ce que c'est courant, en fait, dans l'histoire de l'astronomie, d'avoir justement, parce que c'est un homme d'affaires et astronome amateur au départ, qui se passionne un peu d'abord pour Mars avec les écrits de Camille Flammarion, est-ce que c'est courant qu'un amateur se saisisse comme ça d'un sujet, en l'occurrence de la recherche d'une planète?
Oui, ça arrive et il y a d'autres exemples assez proches de l'observatoire de Lowell. C'est le cratère... ce qu'on appelle le météore cratère aux États-Unis. Il y a un riche industriel qui a acheté le cratère parce qu'il avait lu dans la presse du début du XXe siècle qu'il y avait du carbone et peut-être du diamant au fond de ces cratères météoritiques. Et ça a été finalement infructueux comme recherche, mais effectivement, il y a certains riches hommes d'affaires s'emparent de ces sujets quelquefois pour leur propre passion pour l'astronomie, qui est souvent réelle d'une certaine manière. Donc oui, ça peut arriver.
Et c'est ce qui va le pousser un petit peu à construire cet observatoire à Flagstaff en Arizona pour tenter au départ de scruter la planète rouge pour cette passion pour Mars, pour les canaux. Thomas Wiedemann, est-ce que c'est si facile de construire un observatoire à cette époque? Nous sommes en avril 1894. Comment se construisent de manière un peu générale les infrastructures en fait à ce moment-là? Est-ce que c'est uniquement parce qu'il était très riche et très passionné par l'astronomie?
Non, la construction d'un observatoire obéit à des règles assez simples, c'est de la maçonnerie et une optique de grande précision montée sur une mécanique de grande précision. Donc c'est l'association des deux qui fait la qualité d'un observatoire. Donc c'est à disposition de tous les pays industrialisés de l'époque. Et c'est d'ailleurs au tournant du XXe siècle que les grands observatoires vont changer de côté de l'Atlantique et les plus puissants vont se trouver aux États-Unis. En particulier au Mont Wilson, au moment de la Première Guerre mondiale. C'est là où Hubble va commencer ses observations extragalactiques. Donc il y a une prééminence des grands observatoires américains sur les observatoires européens qui se met un petit peu à jour au début de ce XXe siècle, ce qui est un petit peu important dans notre contexte historique, comme on en reparlera peut-être.
Alain Doré-Soudirham, comment est-ce que Lowell s'y prend justement pour pouvoir rechercher cette planète qu'il appelle déjà transneptunienne, c'est ça?
Oui, il parle effectivement de cette région transneptunienne, donc qui traverse l'orbite de Neptune. Et pour s'y prendre, eh bien, en fait, c'est une méthode, quand je vais dans les classes, je leur dis enfantine, car il n'y a pas besoin d'un doctorat en astrophysique pour découvrir une nouvelle planète. Il suffit de jouer au jeu des sept différences. Parce que qu'est-ce qui trahit la présence d'une planète ou d'un astéroïde, d'un objet dans le système solaire, c'est son mouvement. Et donc, en prenant deux ou trois images espacées de quelques minutes, un intervalle de temps, eh bien, on traque la différence, l'objet qui a bougé. Et donc, Lowell, c'est quand même un travail fastidieux, puisqu'il faut regarder des milliers, des millions d'étoiles. Hein. Et donc, pour s'aider dans cette tâche, il acquiert un appareil révolutionnaire à l'époque, qui s'appelle le Blink Comparator. On pourrait traduire ça comme un comparateur à clignotement.
Clignotement.
Voilà, c'est ça. Et donc, on pouvait même zoomer sur certaines parties des images. On parle ici de plaques photographiques. Et donc, il pouvait alterner rapidement deux images pour justement qu'apparaisse soudainement le petit mouvement d'un objet qui n'est pas, par définition, une étoile, puisque ça bouge.
Et un petit mot sur le caractère justement fastidieux des expériences et peut-être sur la place des femmes. Dans l'histoire de la découverte de Pluton, j'ai trouvé le nom d'Elizabeth Williams. Donc je ne sais pas si l'un de vous deux en avait déjà entendu parler, mais elle était responsable des calculs pour Lowell, donc indirectement de sa découverte. D'après ce que j'ai compris, c'est qu'elle fut plus tard licenciée de l'observatoire parce qu'il était jugé inapproprié d'employer une femme qui était désormais mariée. Quelle était un peu la place des femmes dans l'astronomie à cette époque, Thomas Wiedemann?
Alors, bon, ce n'est pas tout à fait notre spécialité, mais dans ce qu'on en connaît bien de l'histoire de l'astronomie, c'est vrai que les hommes étaient un petit peu les seuls observateurs de nuit au sommet des montagnes dans des conditions, c'est vrai, privées de toute hygiène, donc c'était un petit peu le critère, et les femmes étaient cantonnées au service des calculs de jour ou à l'activité d'analyse et de dépouillement des données des plaques photographiques qui étaient nombreuses, et c'était un travail minutieux et très fastidieux. Donc voilà. Donc c'était dans la société de l'époque relativement naturelle de ce partage des tâches, même s'il est critiquable aujourd'hui. Et sur l'histoire personnelle d'Elizabeth Williams. Je pense qu'il y a eu, effectivement, il n'y avait pas de place dans l'administration de ce qu'on appelle la recherche aujourd'hui, c'est-à-dire la science, autant qu'il n'y en a eu dans la suite du XXe siècle. Donc c'est resituer dans le contexte de l'époque.
France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
Lowell va décéder le 12 novembre 1916 sans parvenir à trouver en fait Pluton. C'est Vesto Slipher qui hérite en quelque sorte de l'observatoire et qui va finalement continuer un petit peu les recherches. Et celui qui va vraiment découvrir Pluton, c'est Clyde Tombaugh, donc autodidacte et fils d'agriculteur. Donc c'est encore un profil assez atypique, Thomas Wiedemann.
Tout à fait. Ça illustre bien cette dimension d'abord proche d'un grand public éduqué, mais qui n'est pas forcément diplômé dans cette recherche passionnée d'une nouvelle planète. Planète, comme on l'a dit, c'est l'astre qui se déplace. C'est d'ailleurs l'étymologie du mot. C'est un adjectif en grec ancien qui signifie planetes aster. C'est l'astre qui se déplace. Donc ça veut bien. C'est bien ce que disait Alain. C'est-à-dire, il faut vraiment jouer au jeu des sept erreurs entre deux plaques photographiques sur lesquelles on regarde avec une optique de précision pendant des heures, en basculant la manipulation du blink comparator de gauche à droite. Et c'est à ce moment-là que d'autres corps peuvent comme ça jaillir sous le regard. Ça peut être des artefacts, évidemment, donc il y a beaucoup de mauvaises surprises. Donc c'est un travail fastidieux. Et ça met à contribution les femmes, mais également des amateurs chevronnés comme Clyde Tombaugh.
Et comment est-ce qu'il arrive à finalement travailler sur cette question? Comment est-ce qu'il est recruté peut-être par l'observatoire de Lowell, Alain Doré-Sondiram?
Alors, c'était un astronome amateur, hein, mais fils de fermier du Kansas, hein, donc une famille modeste. Et d'ailleurs, on est à l'époque de la Grande Dépression, donc ils avaient beaucoup de problèmes financiers. Mais il était passionné d'astronomie, il a même fabriqué lui-même ses instruments à partir de machines agricoles. Et il a envoyé des dessins de ses observations à l'observatoire, juste pour avoir une expertise sans arrière-pensée. Mais Vestoslifer, impressionné par la qualité de ses observations, le recrute en 1929 pour l'aider dans cette tâche, cette quête de la planète X.
Et justement, il va découvrir deux clichés qu'il avait mis un peu de côté et qu'il va regarder à nouveau. Clyde Tombaugh fait le récit de cette découverte dans une interview de 1991.
J'avais pris place au télescope le mois précédent, en janvier 1930, et je ne savais pas que j'avais enregistré les images de Pluton sur ces plaques jusqu'à ce que je les scanne plus tard, en février. Vous devez observer chaque étoile, sur chaque image, parce que vous ne savez pas ce qui va se déplacer. C'est donc un travail très fastidieux. Vous regardez des dizaines de milliers d'étoiles, et je suis arrivé à un endroit où c'était vraiment là. Instantanément, j'ai su que j'avais une planète au-delà de l'orbite de Neptune, parce que j'ai compris que l'ampleur du déplacement correspondait. C'est comme si on m'avait jeté un sort, ça m'a électrisé. J'ai réalisé en quelques secondes que j'avais fait une grande découverte, que j'allais devenir célèbre, et je ne savais pas ce qui allait se passer après.
Il va prendre justement ces deux clichés le 23 et 29 janvier 1930, donc des clichés un petit peu historiques. On entend quand même l'émotion. C'est assez rare d'entendre justement des astronomes qui ont fait des grandes découvertes. Une réaction peut-être l'un et l'autre, Thomas Wiedemann.
Moi, ma réaction, c'est que c'est la première fois qu'on entend la voix d'un astronome qui a lui-même découvert une nouvelle planète. Et on n'a pas la voix de Le Verrier.
Ce sera le seul.
Herschel découvrant leur planète. Huygens, c'était pour Titan autour de Saturne, etc. Je pense qu'il peut être fier parce que c'est un travail effectivement très fastidieux et nous sommes dans notre profession toujours, finalement, la découverte est un point ultime d'un travail acharné sur des centaines de jours et de nuits parfois d'observation. Et donc, on ne peut que se sentir très proche de ce commentaire de Clyde Tombaugh.
Il faut dire aussi que le jeune Clyde a été mis sur en quelque sorte, une fausse piste. Parce qu'il faut rappeler que c'est à posteriori, on saura que finalement, il n'y avait pas à chercher de nouvelles planètes, puisque les perturbations qu'on croyait voir sur Uranus étaient que des méconnaissances de la masse réelle de Neptune. Et donc, finalement, il cherchait quelque chose qui était beaucoup plus gros, mais à tort. Et on dira qu'il a eu beaucoup de chance, mais non, il a vraiment eu beaucoup d'abnégation dans cette recherche-là, puisque finalement, et dès la découverte de Pluton en 1930, on s'aperçoit que c'est pas du tout la fameuse planète X, puisqu'elle est beaucoup plus faible que la planète d'Éta. On pensait à une planète de 10 fois la masse terrestre, mais on s'aperçoit que c'est plutôt bien en deçà de la masse terrestre. Donc, avec beaucoup d'abnégation, finalement, sur des fausses pistes, il découvre Pluton.
Il y a quelque chose d'intéressant aussi, parce que le nom de Tombaugh va être explicitement cité. Il dit lui-même qu'il savait qu'il allait devenir célèbre. Bon, c'est peut-être un petit peu a posteriori, mais est-ce que c'est pas un peu étonnant qu'un si jeune astronome soit directement nommé? Souvent, les découvreurs, ce sont les directeurs de recherche, ceux qui gèrent en fait finalement un petit peu les projets sans nécessairement faire les expériences.
Non, mais en fait, Vestoslifer, on a pris un petit peu ombrage, hein, et dès le début, il l'a mis un petit peu de côté. C'est lui qui annonce la découverte. Et il le met un petit peu dans un placard, mais cette découverte est tellement fracassante, fascinante, que il ne peut pas le cacher trop longtemps, et très vite, eh bien, Clyde Tombaugh va devenir célèbre comme le véritable découvreur de Pluton, la 9e planète à l'époque.
Mais il a fait un peu de rétention d'informations. Donc la date retenue, c'est le 13 mars 1930, pour coïncider avec la découverte d'Uranus, 13 mars 1781, et l'anniversaire de Percival Lowell, 13 mars 1855. Elle est annoncée le lendemain par une circulaire de l'Union Astronomique Internationale. On y reviendra sur ce rôle justement de cette association et union. Comment est reçue un petit peu cette annonce? Cette annonce, est-ce qu'elle fait le tour des astronomes? Comment est-ce qu'on a, à cette époque-là, les informations des nouvelles découvertes, Thomas Wiedemann?
Eh bien, l'information circule par des télégrammes astronomiques dans toute la communauté scientifique et elle est acceptée et reçue avec toute l'importance qu'on lui doit. Il faut savoir qu'à l'époque, le monde scientifique est encore beaucoup centré sur le système solaire et notre voie lactée. Il n'y a pas encore de cosmologie, c'est une grande science qui va se développer dans la suite du XXe siècle. Et donc, la dimension culturelle est importante également, d'autant qu'elle semble être une marche, j'allais dire, inéluctable vers le progrès, vers la découverte, puisque à chaque siècle, finalement, le 18e, 19e et maintenant le 20e correspond à la découverte d'une planète nouvelle. Mais c'est tout à fait dans l'ordre des choses de ce monde encore très empreint du scientisme de la fin du 19e siècle.
Alain de Ressoudiram, qui a choisi le nom, finalement, de Pluton ?
Alors, il y a eu plusieurs noms qui ont circulé, comme Minerva, etc. Mais c'était des noms qui étaient pris soit par des astéroïdes, soit par d'autres noms. Et finalement, ce nom est venu d'une fillette de 11 ans, Vénétia, une Anglaise, qui a proposé Pluton comme le dieu des enfers et que Vesto Slipher a retenu.
Et justement, il y a donc un enjeu peut-être assez crucial de la médiatisation, en fait, finalement, de cette découverte, parce que on comprend que le grand public a été indirectement sollicité pour découvrir ce nom-là. Est-ce qu'on retrouve justement dans les archives de presse peut-être la médiatisation de cette découverte là, notamment aux États-Unis, Thomas Wiedemann?
Alors, il y aurait certainement un très gros travail à faire, car c'est sûr que c'était pour la première fois une planète découverte depuis le sol des États-Unis. Les deux autres ayant été découvertes, Uranus par un Anglais et Neptune officiellement par un Français. Et donc, effectivement, l'époque s'est emparée du sujet dans la presse à la fois grand public, dans le New York Times, dans un certain nombre de grands journaux nationaux aux États-Unis. Et c'était une fierté américaine à l'époque, de toute évidence, et c'est quelque chose qui était parfaitement légitime, je dirais, du point de vue de nos amis américains. Et c'est en plus, quand le nom de Pluton a été choisi, on s'est aperçu que les deux premières lettres du mot Pluton correspondent aux initiales de Percival Lowell, qui est le directeur de... Donc ça tombait très bien.
Encore un hommage, ouais.
Encore un hommage indirect. Et c'est d'ailleurs comme cela que le sigle, chaque planète, vous savez, a un petit symbole issu du Moyen-Âge, des traités médiévaux, comme le Mars pour le symbole masculin et Vénus, etc. Donc chaque planète a son symbole et on a forgé un nouveau symbole pour Pluton avec les deux lettres P et L qui sont également les initiales de Percival Lowell. Donc il y a eu tout un jeu d'imitation de l'antiquité du monde médiéval européen aux États-Unis qui est encore visible aujourd'hui dans le symbole de Pluton.
Alain de Ressoudiram, donc à ce moment-là, est-ce que on braque un petit peu tous les télescopes dont on a besoin sur Pluton pour essayer de la caractériser? Est-ce que c'est un petit peu la première étape?
Oui, et puis j'ajouterais que dès la découverte de Pluton, eh bien tout le monde se rue sur ces anciennes photographies, car en astronomie, on utilise aussi ce qu'on appelle les images de pré-découverte. Et donc finalement, Pluton découverte en 1930, on remonte sur des anciennes photographies, parce que Pluton est là, simplement on ne l'avait pas vu, jusqu'en 1914, ce qui permet finalement d'avoir une certaine...
Heidelberg, c'est ça ?
Je ne sais pas, mais oui, possiblement.
C'est ce que j'ai dans mes notes.
Ça permet finalement de reconstruire un peu mieux l'orbite, et on s'aperçoit qu'effectivement, eh bien, Pluton est vraiment atypique. Hein. On s'attend à des planètes comme on les connaît, plutôt circulaires. Et en fait, Pluton a vraiment une orbite très allongée. On dit qu'elle est excentrique, très elliptique. Bon, on connaît Mercure qui a une excentricité. Alors, il y a un chiffre pour caractériser l'excentricité, c'est entre 0 et 1. Plus le chiffre s'écarte de 0, plus on s'écarte de la circularité. Et donc, Pluton a une excentricité de 0,25, donc 25% plus écarté qu'un cercle. Donc, bon, c'est pas une grosse disparité par rapport à quelques planètes comme Mars qui a presque 0,1, mais néanmoins bon, elle s'écarte un petit peu du rang des planètes, mais c'est pas seulement la seule caractéristique, car quand on regarde donc cette excentricité, c'est-à-dire qu'elle peut rentrer à l'intérieur de l'orbite de Neptune quand on regarde vu de dessus les planètes et leur trajectoire, mais ça n'arrive jamais puisque d'une part en fait Pluton est très incliné, en fait elle va très en haut du plan moyen des planètes qu'on appelle l'écliptique. Elle peut aller jusqu'à 14 unités astronomiques, hein, qui est la distance Terre-Soleil, c'est-à-dire même plus loin que ne l'est Saturne du Soleil. Et en fait, dernière particularité, elle peut s'approcher, même si elle ne rencontre pas Neptune, elle peut s'approcher dangereusement de Neptune. Et on ne peut pas s'approcher sans mal de Neptune parce qu'on est complètement perturbé, et voire même éjecté. Et cela, ça n'arrive jamais grâce à cette troisième particularité qui est une résonance. Une résonance comme en musique, comme en physique. En fait, pendant que Neptune fait trois tours autour du Soleil, Pluton en fait deux. Ce qui se traduit par le fait que à chaque fois que Pluton est à un endroit du système solaire, eh bien Neptune se trouve à un autre endroit du système solaire. Et donc finalement, Pluton et Neptune ne se rapprochent jamais. La plus grande distance, c'est bien 17 UA. Et paradoxalement, la planète à laquelle Pluton se rapproche le plus, c'est pas Neptune, mais c'est Uranus.
Vous vouliez réagir, peut-être, Thomas?
Oui, c'était pour compléter. Je souscris entièrement à ce que vient de dire Alain. C'est passionnant. Effectivement, sur l'inclinaison, le travail de Forza de nos prédécesseurs, il y a un siècle, bientôt un siècle, avait été d'autant plus compliqué par le fait que Pluton se trouvait alors assez loin de l'écliptique au moment de la découverte. Il cherchait une nouvelle planète perturbatrice plutôt dans le plan des constellations du zodiaque, c'est-à-dire de l'écliptique, et elle s'est trouvée dans la Vierge, mais assez haut dans la constellation de la Vierge, à un endroit où on s'attendait pas forcément à trouver une planète. Donc c'était d'autant plus incroyable qu'ils aient pu trouver deux plaques dans cette région assez éloignée de l'écliptique, ce qui montre en quelque sorte en miroir le travail qui a été fait. Donc effectivement une très forte inclinaison et une période très longue puisque elle met 248 ans cette planète à faire un tour complet autour du Soleil, ce qui est extrêmement long.
C'est-à-dire que depuis qu'on l'a découverte, elle n'a toujours pas fait un tour autour du Soleil.
Elle a fait deux constellations et demie à peu près, et on a célébré...
248 ans,
oui.
C'est ça, la révolution, ouais.
On a célébré récemment le premier tour de Neptune, je crois, depuis qu'on l'a découverte. Enfin, c'est quelque chose. Voilà. On est dans une région du système solaire où les années durent vraiment très, très longtemps.
On va reparler des caractéristiques qu'on connaît actuellement un peu plus tard. Pluton est maintenant découverte. Comment va-t-elle être reléguée en troisième division et perdre son statut de planète? C'est la suite de notre programme. plutôt, de Claire and the Reason sur France Culture. Vous écoutez les découvertes scientifiques qui ont changé le monde avec aujourd'hui la découverte de Pluton en compagnie de Thomas Widmann et Alain Dorès-Oudiram, tous deux scientifiques au LIRA de l'Observatoire de Paris.
C'est par l'étude prolongée des perturbations subies par Uranus que Pickering et Lowell tentaient de rééditer l'exploit de Le Verrier quand celui-ci découvrit la planète Neptune en 1846. Mais ils n'obtinrent d'abord aucun résultat. Ce n'est qu'après la mort de Lowell que Tombeau découvrit la planète en 1930 grâce au Blink microscope. On découvrit Pluton dans une des régions indiquées par Lowell comme probable. Mais on se demande maintenant si ce n'est pas l'effet du hasard, d'autant qu'on s'était basé sur des observations de l'orbite d'Uranus faites, chose étrange, avant la découverte d'Uranus par Herschel en 1781. Ceci expliquerait les contradictions qu'on découvre actuellement entre la masse calculée de Pluton et son diamètre apparent, d'ailleurs très difficile à estimer.
Une archive de l'INA de 1960 dans Heures de culture française par Jacques Fouché. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, de cette découverte, est-ce que Pluton devient un sujet de recherche à part entière, Alain Dorès-Oudiram?
Ah oui, on essaie de découvrir, de caractériser cette nouvelle planète, hein, et on n'a pas fini de l'étudier. On parlera de la mission New Horizons, mais on essaie de caractériser déjà sa composition. Mais c'est un objet quand même qui est très 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 loin, et même de façon plus récente, en observant avec le fameux télescope Hubble, la meilleure image que l'on ait de Pluton est très frustrante. Hein. On voit juste un espèce de gros tas de pixels agrandi avec des zones plutôt claires, plutôt sombres. Il faut savoir que Pluton est 40 fois plus éloigné que la Terre ne l'est du Soleil. Ça veut dire qu'elle reçoit 1600 fois moins de lumière que la Terre. Et en plus, cette lumière est renvoyée vers la Terre, c'est encore un autre facteur, 1600 fois. Donc finalement, les observations sont très compliquées, très délicates, mais néanmoins, on arrive à caractériser sa surface, on découvre un satellite puis quatre autres, et dans les années 70, c'est ça Thomas ?
78.
Ouais, 78, on découvre un satellite à Pluton qui est Charon. Qui est un satellite qui est carrément là. On pourrait même parler de planète double, puisque c'est la moitié de Pluton en taille. Et grâce aux lois de Kepler, car vous savez, avec la lumière, on peut déterminer plein de choses, la température, la pression, la composition, la forme, la taille, etc. Mais il y a une seule chose qu'on ne peut pas avoir avec la lumière, c'est bien la masse, et donc la densité. Et avec la découverte de Charon, eh bien, en 1978, on caractérise la masse de Pluton. Et on caractérise aussi donc sa densité, donc une densité autour de 2. Je rappelle que la densité de l'eau, c'est de combien on est dense par rapport à l'eau. La densité de l'eau a pour référence 1, donc on est deux fois plus dense que l'eau. Et donc ça veut dire que finalement, Pluton est une mixture entre de la roche et de la glace.
Et justement, qu'est-ce qui occupe un petit peu l'astronomie à ce moment-là? Est-ce qu'on se dit qu'il y a des choses après Pluton, Thomas Widmann? On a découvert Charon. On découvre peut-être d'autres objets transneptuniens?
Alors, comme l'a dit Alain, ce sont des objets extrêmement faibles qui sont presque aussi faibles sur les télescopes que les galaxies lointaines le sont. Ce qu'on appelle des magnitudes, qui est la mesure de la brillance de ces objets, et on a déjà abandonné l'idée à l'époque de les découvrir sur les perturbations gravitationnelles. On s'est déjà aperçu que c'était pas le cas déjà.
On fait tout avec la lumière, et on se sert de la lumière qui est réfléchie justement par les petits corps pour pouvoir les identifier.
C'est exactement ça. Et d'ailleurs, l'astronomie est la science de la lumière. On est en fait confiné sur la planète Terre, et donc on ne peut que recevoir la lumière de tous les astres, quels qu'ils soient. Et donc c'est par l'analyse de cette lumière, cette science qu'on appelle l'astrophysique, la spectroscopie, un certain nombre de traitements de cette brillance émise par les astres qui va nous permettre d'établir toutes les lois scientifiques qui y règnent, comme l'a bien décrit Alain. La nature des roches, la densité, voilà. Je revenais aussi sur la notion de planète double, qui est effectivement un cas particulier, quelque chose d'assez extraordinaire pour Pluton. C'est que le centre de gravité commun de Charon et de Pluton, les deux planètes sont tellement proches en masse qu'elle est à l'extérieur. Donc en fait, les deux planètes tournent autour d'un centre de gravité commun qui est à l'extérieur de Pluton. C'est un cas unique, je crois, dans le système solaire. Et il est vrai que ces glaces et ces roches et cette physique nouvelle fait partie de notre travail de planétologue dans le système solaire. Et on est également aidé par tous les modèles numériques aujourd'hui, l'informatique de haut niveau, qui nous permet de contraindre ces observations avec des activités de modélisation sur le... On peut même parler de modèles climatiques sur ces planètes, on y reviendra peut-être.
Ouais. D'ailleurs, Thomas, Pluton a une atmosphère, et tu as travaillé sur la caractérisation de l'atmosphère de Pluton par une technique...
Parlons justement technique, parce que c'était ma question suivante. On a parlé des comparateurs de blink, de ces expériences...
Les comparateurs à clignotement.
Voilà, les comparateurs à clignotement en français. Des méthodes très fastidieuses. Il y a un enjeu dans l'histoire de Pluton. Donc, on a parlé 1930, 78 Charon. La suite de l'histoire va se passer en 92. Sur ces histoires en fait astronomiques, il y a un enjeu de perfectionnement technique qui est énorme. Est-ce qu'il n'y a pas un développement à partir de ce moment-là aussi qui nous permet justement d'aller capter ces infimes rayons de lumière? On a changé de méthode depuis justement ces comparateurs.
Oui. Mais peut-être avant cela, il faut quand même dire que on découvre Pluton en 1930, certains parlent, et juste après 1930, un certain astronome qui s'appelle Léonard dit que c'est peut-être un représentant d'une nombreuse population. Et ça, c'est tout nouveau, c'est un petit peu assez confidentiel, mais à partir des années 40-50, deux astronomes, Edgeworth et Kuiper, prédisent... Enfin, sur la base du bon sens ou de la spéculation, que Pluton ne serait qu'un de ces objets d'une vaste population transneptunienne qui serait simplement que la continuation du disque d'accrétion, donc c'est le disque à partir duquel se sont formées les planètes, et donc tout logiquement, ce disque ne peut pas s'arrêter net à Neptune, il doit continuer à s'étendre, et à partir de ce disque, même si la planète est très disparate, éparse, eh bien, elle a pu se former des petits corps qui, n'étant pas assez nombreux pour se regrouper et former une planète, ont pu former une ceinture. Donc, c'est le bon sens. Et c'est seulement à partir des années 1980 qu'un astronome uruguayen, Fernandez, par le calcul, arrive à démontrer qu'une certaine catégorie de planètes, de comètes qu'on appelle les comètes à courte période, ne peuvent provenir que de cette... ceinture transneptunienne, car beaucoup plus proche, et surtout dans le plan de l'écliptique. Parce qu'avant, on pensait que les comètes ne venaient que d'un seul réservoir, le fameux nuage de Oort, qui lui est sphérique. Donc à partir des années 80, on est passé de spéculation à fait étayé par le calcul, et donc on commence à chercher ces objets-là. Et effectivement, l'espace est très grand, ces objets sont, si ce sont des précurseurs des comètes, ils sont très sombres, très distants, et en plus très petits, on va pas attendre des comètes qui sont de la taille planétaire. Et donc, il faut du temps de télescope. Les grands télescopes à cette époque, c'est du 4 mètres. Mais aussi, il faut accumuler des photons. Et on parlait de Clyde Tombaugh avec la plaque photographique. Eh bien, à partir des années 80, on commence à avoir une nouvelle technologie. Les capteurs CCT, Charge-Coupled-Device, ce sont ces fameux semi-conducteurs. Donc, c'est tout ce qui équipe maintenant nos appareils photonumériques.
Montrez votre téléphone en même temps.
Exactement. Et la plaque photographique, c'est très bien, ça enregistre les photons, mais c'est une réaction chimique. Et donc, sur 100 photons qui arrivent, il y en a quelques pourcents. 4-5% qui atteignent la plaque photographique. Quand je vous prends en photo, Alexandra, vous émettez tellement de photons que il n'y a pas besoin d'avoir grande sensibilité. Mais avec les étoiles, les astéroïdes, les transneptuniens, c'est tellement faible qu'on est avare de photons. Et avec la nouvelle technologie, maintenant on arrive à avoir 95% d'efficacité. C'est une révolution. Les militaires ont été les premiers à utiliser cette technologie, puis les astronomes. Et à partir des années 80, 90, les gens commencent à chercher. On arrive à construire même des caméras de plus en plus grandes, parce qu'il faut brasser une grande quantité de ciel, une fauchée de ciel. C'est pas en regardant un petit point de ciel qu'on va essayer de trouver des objets. Et donc, à ce jeu-là, la gloire et le mérite reviennent aux collègues américains encore. Jane Lou et David Jewitt, qui en 1992 découvrent le deuxième objet transneptunien, 1992 QB1.
C'est Albion. Albion, son nom, Thomas Vindman, c'est ça qui va être finalement un petit grain de sable qui va aboutir au fait de détrôner Pluton. Comment est reçue peut-être finalement la découverte de ce second objet transneptunien, Thomas ?
Eh bien, au départ, l'idée n'est pas que Pluton va subir cette recatégorisation, je dirais,
oui. comme reclassement.
Ce reclassement. Effectivement, les moyens d'observation deviennent à la fois au sol et dans l'espace, avec cette double problématique de rechercher des objets extrêmement faibles et sur des champs extrêmement étendus. Et en fait, c'est la même pour les personnes qui travaillent sur l'univers extragalactique, qui recherchent par exemple la cartographie des amas ou les superamas de galaxies, et paradoxalement le système solaire lointain, qui est pourtant tout proche, a les mêmes problèmes. Et donc finalement, les objets qui sont conçus par des communautés très différentes s'avèrent être les mêmes télescopes qui sont conçus donc dans la même optique, j'ai envie de dire. Donc cette nouvelle catégorie échappe pour l'instant à cette grande réforme de 2006 et va montrer au contraire son intérêt pour la formation du système solaire, la dynamique, savoir s'il y a des compositions différentes. Alain parlait à juste titre que Pluton a une densité relativement faible, qu'il est plus un mélange de roche et de glace que de roche seule, et comme la plupart des objets lointains du système solaire en ce qui concerne les objets solides. Et donc on sait qu'en touchant cette région très éloignée qui a échappé au rayonnement solaire trop fort de la partie centrale, on va peut-être toucher à une nouvelle science qui est en quelque sorte tout ce qui a précédé la formation du système solaire dans ce qu'il est aujourd'hui.
Donc ça c'est en 92 Albion, et puis d'après ce que je comprends de cette histoire, c'est la découverte d'Eris qui va peut-être lancer le début du questionnement sur la remise en question en fait finalement du statut de Pluton. Alain Doresson-Diram.
Oui, alors c'est vrai qu'on découvre avec 1992 que bien Albion, on découvre un deuxième représentant, mais à cette époque-là, je travaillais sur ces objets-là, et comme les autres collègues, on savait on réalisait que Pluton n'était pas vraiment une planète, n'était qu'un de ses représentants, mais néanmoins, personne ne remettait encore en cause le statut de Pluton, mais néanmoins, tous les scientifiques et collègues qui travaillons sur ce domaine-là, savions que Pluton n'est pas vraiment une planète au sens propre, au sens de la définition de l'époque. Et on découvre de plus en plus des objets, eh bien il y a peut-être une barrière psychologique qui est la taille, hein, même si c'est pas un critère, le critère retenu. On découvre des objets comme la moitié de Pluton, on se dit, on commence à découvrir des objets de plus en plus gros. Kawar, si je me souviens bien, c'est dans les années 2000, c'est la moitié de Pluton, on découvre des objets de plus en plus gros, Sedna, etc. Et effectivement, un des découvreurs les plus prolifique, Mike Brown du Caltech en Californie, eh bien découvre en 2005 Eris. Et Eris se trouve être, d'après les estimations de l'époque, quasiment aussi grand que Pluton, voire plus grand.
Plus
grand. Et là, ça devient un problème. Une barrière psychologique que là on ne peut plus écarter, et il faut prendre une décision. Et en 2006, lors d'une assemblée générale à Prague, une révolution, eh bien on vote une nouvelle définition du mot planète, et Pluton est relégué dans une autre catégorie, celle des planètes naines.
France Culture. Ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
Ne m'appelez plus planète, c'est ce que pourrait dire Pluton. En effet, cet après-midi, les 2500 scientifiques présents à l'Assemblée Générale de l'Union Astronomique Internationale ont enlevé à Pluton son statut de planète. Un pavé astronomique dans la mare de l'univers. Pluton, découverte en 1930 par l'astronome américain Clyde Tombaugh, avait à l'époque immédiatement reçu le titre de 9e planète du système solaire. Pour certains, une erreur, car Pluton, trop petite, d'une rondeur insuffisante, d'une gravité insignifiante, ne pouvait garder ce titre prestigieux.
Il a fallu vite, en quelques décennies, considérer que ces objets qu'on découvrait entre Mars et Jupiter, c'était pas des planètes, mais c'était des astéroïdes, parce que le chiffre augmentait mois après mois. Donc ce n'était qu'une famille d'astéroïdes et non pas des planètes.
Pluton, la seule découverte américaine du système solaire, quitte donc la catégorie des belles et majestueuses planètes pour rejoindre, en troisième division, une nouvelle sous-catégorie, celle des planètes naines. À partir de ce soir, dans tous les manuels du monde, la microscopique Pluton va donc disparaître.
Une archive du journal de France 2. On entend d'ailleurs une interview de Francis Roca. Pluton entre de ce fait en troisième division, si je puis me permettre, le 24 août 2006. Alain Dorey-Soudirham, vous avez participé à ces débats et j'aimerais savoir comment s'est déroulée finalement cette discussion et comment débattons sereinement avec 2500 personnes.
Oui, alors j'étais effectivement à cette Assemblée Générale hein, à Prague en août 2006 et nous avons débattu. C'était un débat plutôt houleux, hein, mais en même temps, à la fin, il y a eu un consensus parce que on était tous des scientifiques et on s'est accordé sur une définition physique qui rendait compte finalement d'une meilleure compréhension de ce qu'est une planète. Peut-être qu'on va y revenir. Hein. Donc une planète, c'est effectivement au sens 21e siècle du terme, correspond à une meilleure compréhension de comment elle se forme. Et dans ce débat houleux, et ben, allez savoir pourquoi, peut-être qu'on le sait, hein, bien les Américains étaient les plus virulents. Et peut-être parce qu'ils ont effectivement découvert cette 9e planète, ce sont les mauvaises langues qui le disent, mais néanmoins c'était quand même une minorité, et la majorité, l'immense majorité des astronomes du monde entier, hein, l'IAU, c'est l'Assemblée Générale des Astronomes du Monde Entier, se sont accordés sur cette nouvelle définition. Et de ce fait, on parle ici du pauvre Pluton dans ce reportage, mais néanmoins, Pluton n'en reste pas moins un objet incroyable, fabuleux, extraordinaire. On a découvert plein de choses, on a découvert un objet encore plus actif que ne l'est la planète Terre, on y reviendra peut-être. Pluton n'est pas déclassé, il est reclassé d'une nouvelle catégorie qu'on appelle les planètes naines. Bon, c'est une définition qui a été introduite peut-être pour contenter les autres, ceux qui regrettaient ce statut perdu. Mais néanmoins, voilà, dans le système solaire, il y a maintenant trois types d'objets. Une étoile, le Soleil, 8 planètes et une ribambelle de petits corps qu'on appelle les astéroïdes, les comètes, dans laquelle tombent donc Pluton et les transneptuniens.
Un petit mot encore sur ce débat, Thomas Wiedemann. Il y a une importance quand même de la dimension culturelle, en fait, finalement, de Pluton, ne serait-ce que parce que c'est la première et la seule planète au départ du système solaire qui a été découverte aux États-Unis.
C'est vrai. Quand vous avez dit dimension, je pensais qu'on parlerait aussi de sa taille. Effectivement,
aussi également.
Ce qui a basculé dans ce débat, c'était la taille d'Eris, donc découverte par Mike Brown, comme le disait Alain. Et la méthode des occultations stellaires, depuis le sol, dont nous parlions également tout à l'heure, qui permet de caractériser l'atmosphère de ces corps, a permis également de mesurer, avec la barre d'erreur requise, que ces diamètres étaient en tout cas de même... De même, il était évident que la notion de planète, soit on appelait Eris une nouvelle planète, la 10e planète, soit on repensait cette activité. Et effectivement, l'Assemblée a été houleuse, puisque le critère est assez, quelque part, arbitraire entre planète et planète naine.
Mais est-ce qu'on peut rappeler les trois critères, justement, de définition d'une planète?
Alors Alain va les rappeler, je pense.
Oui. Donc, trois critères, tout simples. Un, l'objet doit tourner autour du Soleil, donc ça c'est tout à fait normal. Deux, cet objet doit être rond, en équilibre hydrostatique, hein, qui permet d'avoir un équilibre entre les pressions, la pression et la rigidité des roches. Et le troisième critère qui a fait le malheur de Pluton, il faut que cet objet ait fait le ménage sur son orbite.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, justement?
Eh bien, ça veut dire, en d'autres termes, que Pluton doit être l'astre dominant gravitationnellement. Et effectivement, quand on comprend la formation planétaire, eh bien, une planète se forme en accumulant, agglomérant tous les objets sur son passage. Et Pluton a failli dans cette tâche, c'est pas tant sa faute, il y a des raisons pour cela. Eh bien, Pluton n'a pas fait son job de planète, et donc, naturellement, Pluton n'est pas une planète, et elle ne le deviendra jamais. On me demande souvent, mais Pluton est-ce qu'elle va un jour devenir une planète? Non, elle ne le deviendra jamais, car la matière est tellement éparse dans ces régions-là, qu'il n'y a quasiment jamais de rencontre. Et pour avoir une agglomération, comme on dit, une accrétion planétaire, il faut qu'il y ait rencontre. et il y aura plus de rencontres, et ça n'arrivera plus, et donc Pluton ne deviendra jamais une planète.
Et ça se joue un petit peu en fait au début, et finalement ce qu'on comprend avec la définition d'une planète, c'est pas tant de dire qui rentre et qui rentre pas, mais ça signe aussi une meilleure compréhension de la formation planétaire, qu'on n'avait pas en fait au moment de la découverte de Pluton, Alain Doré-Saudirême.
Exactement, exactement. Et quand on regarde l'histoire de l'évolution du nombre de planètes, eh bien au départ, on avait 7 planètes. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit film qui s'appelle 1, 2, 3 planètes. Si les auditeurs, les auditrices veulent aller veulent en savoir plus,
on le mettra sur le site de l'émission.
Eh bien, au départ, on avait 7 planètes. Mais les 7 planètes, c'est ce correspondent aux 7 jours de la semaine. Mardi, Mars, mercredi, Mercure. Mais lundi, la Lune. OK, bon, ça cloche. Et dimanche, c'est quoi? Eh bien, c'est le Soleil. Car pour les, comme le disait justement Thomas, planète pour les Grecs, qui avaient quand même réussi dans les mathématiques, la tragédie, etc. Ils avaient tort sur ce point, parce que pour eux, leur définition, c'était astre errant. À cette époque, la Terre était au centre de l'univers, le géocentrisme. Et pour eux, eh bien, le Soleil était une planète et il a fallu attendre près de 2000 ans avant que Nicolas Copernic, astronome polonais, remette en cause ce géocentrisme pour placer le Soleil au centre du système solaire.
Mais il y a d'autres émissions dont on a parlé justement de cet héliocentrisme. On vous les mettra aussi sur le site de France Culture. Un petit mot rapide, on est d'accord que cette redéfinition, cette nouvelle définition et le reclassement de Pluton n'a absolument pas changé votre façon, l'un et l'autre, de travailler.
Au contraire, non, c'est comme le disait Alain, Pluton est un objet absolument incroyable, c'est un des corps les plus actifs du système solaire, comme il y en a peu, il y a Io avec ses volcans, Pluton a un couplage entre ses glaces, ses cycles de sublimation, de solidification des glaces et son atmosphère qui est extrêmement incroyable, couplé avec la géologie, enfin c'est un corps extrêmement intéressant, comme la sonde American New Horizons l'a montré lors de son passage en 2015. Et vous avez raison de dire que ce qui guide les astronomes, c'est avant tout la science, et qu'il n'y a pas vraiment d'abandon de Pluton pour son intérêt scientifique, loin de là. Et d'ailleurs, pour adoucir ce déclassement, il y a finalement dans cette catégorie Cérès, le principal corps de la ceinture principale des astéroïdes entre Mars et Jupiter, découvert en 1800, le 1er janvier 1800 par Piazzi, qui se trouve aussi être une planète naine de mémoire, l'une des planètes naines du système solaire. Donc c'est la seule planète naine dans la ceinture principale des astéroïdes, où d'ailleurs on avait commencé à appeler les nouvelles planètes des planètes, avant de les sortir de cette catégorie au milieu du 19e siècle, en 1850, et finalement les appeler des petites planètes. Voilà, donc finalement l'histoire a déjà eu lieu et s'est reproduit au début du 21e siècle. Et donc c'est un, j'allais dire, demander à un agriculteur, à quelle hauteur se trouve la différence entre un arbre et un arbuste. Évidemment, c'est un débat qui n'a pas vraiment d'intérêt. Ce qui intéresse, c'est l'espèce. Est-ce qu'il donne des fruits? Est-ce qu'il va pousser, faire de l'ombre et servir la biodiversité, etc. Voilà. Donc cette notion, finalement, passe très en arrière-plan de tous les intérêts de notre travail.
On arrive à la fin de cette émission. J'aimerais absolument mentionner, en fait, peut-être la vraie révolution scientifique qui se cache derrière l'histoire de la découverte de Pluton. C'est la ceinture de Kuiper.
Oui, exactement. On parle beaucoup de ce reclassement, de cette nouvelle définition, mais en fait, le plus important, c'est qu'on a, comme disait le collègue Dave Jewitt, hein, qui a découvert Albion, eh bien, on a découvert moins une planète, mais on a découvert plus une ceinture de Kuiper. Et cette ceinture de Kuiper, elle a repoussé la frontière visible du système solaire, parce qu'à Eris, on a reculé par 2,5 fois la frontière visible de ce système solaire. On a aussi découvert une nouvelle ceinture, une nouvelle population qui nous raconte finalement quelque chose qu'on ne soupçonnait pas sur l'enfance tourmentée du système solaire, peut-être l'occasion d'une autre émission.
Absolument.
On a vu que les planètes ont migré, qu'elles ont été chahutées, qu'il y a eu un cataclysme dans l'enfance du système solaire. Et puis, on a découvert le réservoir des comètes. Et puis surtout, ces ceintures de Kuiper, eh bien, on en voit l'exemple dans ces nouvelles exoplanètes qu'on découvre par milliers maintenant. On a découvert aussi des exo-ceintures de Kuiper. Donc finalement, cette ceinture de débris est très courante dans le paysage de la formation planétaire.
Et une petite question, peut-être un peu naïve et provocante. Sans ce statut de planète, si Pluton avait été classifié comme objet transneptunien depuis le début, Thomas Widmann, est-ce que ça aurait limité les recherches à son sujet, notamment peut-être le lancement de la sonde New Horizons?
Alors, Vous avez...
C'est une question a posteriori. Hein,
vous avez tout à fait raison, et ce n'est pas du tout une provocation. C'est vrai que lorsque la mission New Horizons a été proposée par Alan Stern et ses collègues aux États-Unis, c'était l'idée d'explorer la seule planète du système solaire qui n'avait pas encore été visitée par un vaisseau spatial. Donc c'était, le pitch, comme on dit, enfin la ligne principale de l'argumentaire.
Et de financement.
Et de demande de sélection, et la sélection entraîne, puisque ces propositions de missions spatiales sont toujours en compétition les unes avec les autres avant d'être sélectionnées. Et donc le déclassement a eu lieu pendant finalement la phase de croisière, je crois, qu'elle était déjà en vol.
Elle est partie en 2006.
Ça, 2006.
Donc l'équipe est arrivée en 2005. Avait un petit peu peur qu'on lui coupe les moyens.
Exactement.
C'était, on les voyait dans les colloques, je les voyais avec des t-shirts Sauver Pluton. C'était vraiment des militants. Car effectivement, comme on le voit avec la politique actuelle de Trump, ils avaient peur d'avoir des budgets coupés parce que finalement, ils allaient voir pas la 9e planète, mais qu'un vulgaire objet.
Transneptunien. Parmi des milliers
et des
milliers.
C'est tout le contraire, car effectivement, quand la sonde est arrivée à Pluton, on a découvert un monde absolument fascinant. D'ailleurs, on peut rajouter dans la petite histoire que New Horizons a emmené des cendres de Clyde Tombaux.
Oui. Je l'ignorais.
Une petite capsule
sur la sonde.
C'est vraiment sympa.
Un hommage et dernier mot et dernière question pour vous, Alain Doré-Soniram. À l'heure actuelle, on recherche toujours une planète non pas X, mais 9. Elle n'a plus maintenant rien à voir en fait avec Pluton.
Oui, c'est ça. Eh bien, cette ceinture de Kuiper a révélé beaucoup de choses, et en particulier une certaine catégorie de ces transneptuniens présente des anomalies dans leur orbite, comme si elles étaient chassées d'un côté. Et donc, par la même méthode qui a fait découvrir Neptune par les perturbations sur Uranus, on pense qu'il y a une planète neuve qui perturberait ces objets. Alors, cette planète neuve, elle semblerait très lointaine, peut-être à 600 fois la distance Terre-Soleil, qui ferait peut-être une petite dizaine de masses terrestres, mais que l'on recherche toujours. Elle a été avancée encore par la même équipe, Mike Brown, en 2016, mais depuis 2016, on la cherche. Alors, par contre, cette planète, elle n'est pas du tout dans le plan de l'écliptique. Elle est prédite plutôt inclinée, comme les objets transneptuniens. Beaucoup d'espace à rechercher. On l'a toujours pas trouvée. Peut-être un télescope qui va commencer sa première lumière à la fin de l'année, le Vera Rubin télescope, qui va scanner tout le ciel en 4 jours, va peut-être permettre de découvrir cette planète ou pas.
Merci à vous deux, Alain Doré-Soniram, Thomas Wiedmann, d'être venus nous raconter l'histoire de la découverte de Pluton. Cette émission a été préparée par Loïc Dutoit. À la réalisation, c'est Sam Bakias. Et aujourd'hui, à la technique, c'est Valentin Azan-Zielinski. Vous pouvez retrouver cette émission et les autres découvertes scientifiques qui ont changé le monde sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. On se quitte en musique sur Size Doesn't Matter de Craig Smith.
Size doesn't matter, no size doesn't matter. Size doesn't matter at all. Size doesn't matter, no size doesn't matter. Size doesn't matter at all. Well, you can be short or you can be tall. Size doesn't matter at all. You can be big or you small, size doesn't matter at all. Well, your mama doesn't care, nor your papa too. Size doesn't matter at all. Any size that you may be, they will still love you. Size doesn't matter at all. It's not the size that counts, but how we work as one. Size doesn't matter at all. If we work together,